Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu et maintenant c'est Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y. Bonsoir. Oui, je vous laisse le micro pour les annonces, sinon je crois que je vais faire couper la.
Non, du coup, vous êtes bien à l'écoute d'Idée Noire, parce que tu devais le faire, mais tu l'as pas fait. L'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et puis, comme d'habitude, on démarre par les annonces. Il y en a deux, je crois, ce soir, en tout cas.
Effectivement, j'en ai une, moi, qui c'est pas encore la page des luttes hein, habituelles hein, et traditionnellement à ce micro d'Idées Noires. Mais c'est à Lyon, donc ça se passe. C'est une grève d'ouvrières, 250 personnes pour des augmentations salariales. Une pétition est en cours pour aussi la diminution du temps de travail, puisqu'il a il s'agit de journées à 11h quand même. L'aide de la préfecture a été demandée pour qu'aboutissent plus rapidement les revendications. Eh bien, le préfet n'a pas donné suite, évidemment. Elles ont reçu donc le soutien de plusieurs organisations ouvrières. Alors ne cherchez pas dans les médias parce que vous ne trouverez pas du tout cette lutte, puisque cette lutte se passe en 1869. Ben oui, c'est la lutte des ovalistes ouvrières de la soie dans le moulinage, qui est la préparation du fil de soie et de leurs conditions de travail déplorables et de leur vie également. Mais là, pour en savoir plus, c'est là qu'intervient justement l'annonce de ce soir, pour en savoir plus et mieux, ben rendez-vous à La Griffe, la librairie libertaire, c'est ce samedi 14 janvier à 15h pour échanger sur le sujet en question, donc la lutte des ovalistes avec Claire Ozias et Annie Couel. Je rappelle l'adresse quand même de La Griffe, c'est rue Sébastien Griffe dans le 7e arrondissement. Pour y accéder, vous avez le métro Saxe-Gambetta et c'est à deux pas du métro. Voilà, donc c'est Claire Ozias et Annie Couel présenteront donc le livre éponyme donc sur la lutte des ovalistes. Voilà.
Ouais, et puis pour continuer sur les annonces, on aura aussi une mobilisation des personnels du CHS Le Vinatier en AG le mardi 17 janvier à 14h30. Au Vinatier, comme de partout en France, la résistance s'organise pour une autre politique hospitalière. Dans de nombreux établissements, des grèves et des mobilisations sont en cours. Nous nous mobilisons en AG mardi 17 janvier pour décider des suites du mouvement. Le 29 novembre et le 8 décembre 2016, les personnels ASH, mais aussi leurs collègues, se sont mobilisés contre la politique de restructuration de l'hôpital et contre l'austérité que nous combattons. Nous étions plus de 120, tous grades confondus, pour porter nos revendications à la direction. Le personnel et leurs représentations, les syndicats FO et CGT, se sont exprimés et restent mobilisés pour faire entendre leurs revendications. Titularisation de tous les contractuels, 4 ASH par unité, le remplacement des personnels en maladie, maintien du roulement 4-2 pour tous, le maintien de la fonction ASH à l'hôpital, arrêt des restructurations. Vous pouvez arrêter de chuchoter dans les micros, s'il vous plaît.
Excusez-nous.
Arrêt des suppressions de postes et des fermetures de lits unités, non aux 3,5 millions d'économies, réouverture des 40 lits de psychiatrie adulte fermés. En 2017, c'est 3,5 millions d'économies que le directeur a prévu de faire, soit l'équivalent de 80 postes. Cela se traduira par la restructuration de l'extra-hospitalier avec les fermetures comme le CMP de Chassieux en pédopsychiatrie, des fusions de structures comme les CMP de Bron, Mézieux, Dessines, des suppressions de postes au pôle ouest en psychiatrie adulte. La fermeture d'une unité de gérontopsie, le SSR Révol, la fermeture d'une unité de longue évolution, des suppressions de postes, encore moins d'ASH par unité alors qu'il en faut 4 minimum et dans bien des cas ce sera 5 ou 6 qui seront nécessaires par unité. Moins d'IDE, moins d'ASD, encore moins de remplacement de personnel en maladie, en maternité, en formation. De tout cela, il n'est pas question, nous ne lâcherons rien. Par les deux mobilisations du 29 novembre et du 8 décembre, les organisations syndicales CGT et FO, ainsi que le personnel du Vinatier, avons démontré que nous ne laisserons pas faire. Cela ne peut plus durer. Nous refusons d'entendre parler de finances, d'économie et de profit. Nous voulons parler de soins, d'accueil et de conditions de travail. Soignants, ASH, ouvriers, ouvrières, administratifs, médecins. C'est le même combat qui doit être mené. La solidarité fait la force de tous et toutes. Aucune catégorie ne peut travailler toute seule. Notre métier, c'est accueillir, soigner. Nous nous opposons à la destruction de l'hôpital, aux fermetures de lits, d'unités, de soins, aux suppressions de postes, aux restructurations. Mobilisons-nous et exprimons-le très fort. Réfléchissons toutes et tous ensemble aux suites du mouvement. C'est pourquoi nous serons toutes et tous présentes le 17 janvier à 14h30 pour décider ensemble de la suite du mouvement. Rendez-vous cette fois-ci donc au local de FO. Je ne connais pas le...
Ouais, c'est au Vignati, donc c'est pas là, effectivement la première grève. Il y avait eu du monde dans les assemblées générales, a priori, entre les deux mouvements que tu as cités tout à l'heure, là, au mois de novembre, enfin au mois d'octobre et au mois de décembre. Ouais. Voilà, on espère que ça va bouger. Enfin, on sait que c'est la merde dans tous les hôpitaux, notamment dans le secteur psychiatrie. Effectivement, soit ils regroupent comme dans tous les hôpitaux pour faire un peu d'économie, soit ils ferment carrément des centres et du coup, on peut plus accueillir les gens comme il se doit. Du coup, après, on avait prévu du coup un petit point sur le délit de solidarité, c'est ça? C'est toi qui démarres ou
C'est toi qui démarres, Julien.
C'est moi qui démarre, d'accord. Mais c'était pas comme ça normalement, mais je démarre si vous voulez.
C'est
du coup, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé un petit peu avec des personnes qui ont du coup. Qui ont aidé des migrantes et des migrants, notamment à la frontière franco-italienne, notamment de la vallée de la Roya. Voilà, donc il y a une personne à Nice qui s'était fait condamner une première fois, ensuite qui a été acquittée, un prof là, mais qui du coup est de nouveau va passer au tribunal parce que du coup le parquet a fait appel. Il y avait cet agriculteur que vous avez tous vu sûrement aux infos ou dans les journaux, hein, qui avait accueilli des dizaines et dizaines de migrantes et migrants. Dans sa voiture pour les faire traverser un petit peu la vallée parce que c'est une route assez dangereuse et puis il y avait une mineure qui s'était fait écraser qui était morte et ensuite en accueillant du coup du monde sur son terrain une bonne trentaine je pense hein, du coup voilà avec une petite organisation qui s'était faite avec des cours enfin voilà avec pas mal de choses plutôt sympa. C'est vraiment le passage du coup de la frontière hein, parce que nous on avait beaucoup parlé de Vintimille à l'époque. Donc c'est par là-bas du coup ce passage dans les montagnes pour pouvoir revenir en France vu qu'en Italie il y a un gros blocage maintenant.
Toute la vallée de la Roya,
ouais, toute la vallée du coup
c'est 20 000, ouais. Et de la frontière du coup méditerranée franco-italienne.
Voilà, donc en plus de ces deux personnes qui sont connues du coup qu'on a vu un petit peu de partout, et eh ben on a appris récemment du coup qu'il y avait quatre autres personnes qui s'étaient fait arrêter pour les mêmes raisons hein, pour délit de solidarité. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais en tout cas ça en est. Et du coup moi je voulais juste revenir vite fait sur les origines de ce délit de solidarité. Avec un petit encart que j'ai trouvé du coup sur le canard de la CNT. Voilà. Depuis quand l'entraide est-elle passible des tribunaux? Bah comme ça, on dirait un peu tous et toutes 2009, au moins avec Sarkozy. On s'en est tous rappelés. On se rappelle tous. Donc à un moment où il était président de la République et Rachida Dati ministre de la Justice, avec ce fameux délit de solidarité, les juristes l'appellent le L622-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers. Donc le texte de loi, il dit que toute personne qui aura apparaît direct ou indirect, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. Donc, mais en fait, cette loi, la première fois que la loi française a institué la possibilité de poursuite pénale, c'était il y a près de 80 ans. L'article 4 du décret-loi Daladier du 2 mai 1938 a inventé le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France. À l'époque, dans un climat particulièrement xénophobe. Et donc l'article, c'était tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera puni. À l'époque, c'était passible d'une amende de 100 à 1000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an. Donc on peut noter quand même qu'entre 1938 et donc 2009, le texte est pratiquement la même. C'est pratiquement la même chose, c'est pratiquement les mêmes termes. Sauf que du coup, la peine est plus grande et puis l'amende aussi beaucoup plus grande. Et bien ce délit qui réprimait depuis 2009 l'aide logistique aux étrangers faisant un peu tâche, les gouvernants ont prétendu qu'il ne s'appliquait pas ou qu'il ne frappait que les méchants, entre guillemets, hein, qui auraient monnayé leur assistance, les passeurs notamment. Sous diverses pressions et mobilisations, le gouvernement annonce depuis 2013 la suppression de ce fameux délit de solidarité par une loi, donc je vous l'ai dit, hein, c'est la loi 2012-1560 du 31 décembre 2012, entre guillemets, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure, et c'est là où c'est intéressant, où c'est un peu faux aussi, pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées. Donc du coup, comme toute loi, c'est hyper vaste, ça veut dire qu'on fait semblant de supprimer un délit qui est toujours actif, et on le voit du coup aujourd'hui avec ses condamnations et ses arrestations. Et la question qui se pose, c'est quoi ce désintéressement? Eh ben, pour les juristes du GISTI, alors GISTI, hein, vous rappelez ce que c'est? Ah merde, si, il est marqué groupe d'information et de soutien des immigrés. Eh ben, ça désigne des interventions entre guillemets sans contrepartie, directe ou indirecte, ce qui permet toutes les dérives. On a même vu engager des poursuites contre une personne qui hébergeait une famille étrangère en faisant valoir qu'il y avait eu contrepartie, la dite famille ayant participé aux travaux domestiques et lavé la vaisselle. Donc ça veut dire que les personnes sont condamnées pour ça, ça veut dire que de l'aide indirecte, ça peut être interprété par la justice, par le fait que quand tu as quelqu'un chez toi, eh ben, il fasse la vaisselle, voire peut-être un jour qu'il ait fait à manger, ou qu'il ait passé un coup de balai après le repas. Donc voilà, donc là on va condamner des gens pour délit de solidarité, même si ça ne s'appelle plus comme ça. Donc là il y a un peu le forcing qui est fait, donc sur, on a au moins 2 et 4 maintenant qu'on est arrêté, 6 personnes. Donc il va falloir suivre de très près ce qui va se passer, voilà, parce qu'entre-moi, ouais, les condamnations vont vraiment s'enchaîner énormément, hein, parce que...
C'est pas la première fois, hein, là-bas, surtout dans la
région. Oui, dans la région,
il y a des délits de solidarité, parce qu'il y a pareil, il y a eu des militants No Border qui ont été interdits de séjour sur le territoire, ce qu'on n'avait pas vu déjà quand même depuis très longtemps. C'est pas les premiers cas qui se présentent, hein. Je pense que ça va faire qu'empirer, mais ça sera à surveiller, oui.
Voilà, parce que du coup, là, ils essaient de décourager les gens, enfin, en tout cas, de les empêcher d'être solidaires. Bah, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Bon, on les condamne, on fait un peu de taux là, un ou deux, et comme ça décourage pas mal de monde. On espère du coup que la solidarité va se mettre en place. Et puis, on va venir un petit peu sur Lyon, plus globalement, sur, vous avez sûrement entendu parler, hein, de cette polémique. Bah, il y a la fameuse polémique de Gérard Collomb qui fait la gueule.
Oh, il est triste.
Gérard, il fait la gueule parce que bah, il a perdu des thunes.
Il a du mal à
parce qu'il n'allait pas au Sénat et du coup, on lui a enlevé du 4000 euros, je crois, non c'est, par mois, c'est ça,
ouais. Il est maintenant à 4000 euros.
Il est à 4000 par mois, ouais. Donc il était à 8 ou 9000, je crois.
Il mettre d'argent de côté en fin de c'est mois. Ça. C'est très difficile.
C'est trop triste parce que. Bah, pourquoi je vous parle de Gérard Collomb? Bah, c'est aussi parce que. En lien avec la préfecture, bien sûr, par rapport à toute cette personne qui dort encore dehors. Il y a eu un rassemblement, c'était la semaine dernière, il me semble, devant l'OFI, devant un bâtiment de l'OFI, c'était rue de l'Effort, on en avait parlé, on avait fait dans les annonces, dans le 7e arrondissement, à l'initiative de Jamais Sans Toi. Jamais Sans Toi, il se mobilise du coup depuis quelques années, et à chaque rentrée, enfin, surtout les 3-4 premiers mois là, de la rentrée scolaire entre septembre et décembre, pour tous les enfants et leurs familles qui vivent dehors, avec une situation de plus en plus dure, hein, vous avez vu les températures qu'il fait maintenant. Et donc, du coup, ils avaient réussi à loger une centaine de personnes en tout, hein, enfants et familles compris, mais il y en va encore au moins 150 à 200 personnes qui dorment dehors en ce moment même. Et donc du coup là il y avait un rassemblement devant ce bâtiment de l'OFI, parce que l'OFI donc c'est les personnes, bah, j'avais déjà expliqué un peu la semaine dernière, mais quand vous allez à la préfecture pour une demande d'asile notamment, hein, ensuite vous passez par la case OFI qui vous octroie une petite aide financière qui essaie de vous trouver un logement et qui vous donne des papiers pour la santé. Et ben du coup dans ce bâtiment de l'OFI, en fait, avec des personnes pour la plupart qui ne parlent pas français, et ben du coup il y avait eu sans traduction des papiers qui avaient été signés, et en fait ils incitent les gens à signer leur aide au retour donc au pays en l'échange d'un logement qui va durer du coup qu'un peu de temps, parce qu'ils vont être obligés du coup de rentrer chez eux et chez elles. Et donc du coup, il y a ce chantage-là qui est fait. Soit vous signez votre retour à la case départ, soit on vous remet dehors. Donc voilà le petit chantage qui est fait. Alors ce qui était assez drôle pendant le rassemblement, c'est qu'a priori, il y a le directeur qui est quand même descendu. Donc ça, c'était quand même voilà, plutôt... Voilà, il est descendu en disant, ben non, mais je vous assure, toutes les personnes qui signent leur papier ont un traducteur. On a un traducteur albanais, du coup, qui est dans les locaux de l'OFI, qui traduit à tout le monde. Et là, du coup, il y a une dame qui lève la main et qui dit, ben non, on n'a pas traduit parce que, en fait, elle ne parle pas albanais, elle. Donc du coup, voilà, donc ils font quand même signer des papiers, voilà, des gens sans savoir ce qu'ils signent. Donc c'est parce que c'est hyper important quand vous accompagnez des personnes, et ben, d'essayer d'avoir toujours quelqu'un, soit au téléphone, soit en direct avec vous, voilà, qui peut traduire tout ça. Au moins que les gens, même si c'est quelque chose de positif, que les gens sachent au moins ce qu'ils signent, c'est la moindre des choses. Voilà, et je vous parle de ça parce que du coup, il y a un petit article sur Rebellion qui est passé, mais ça on en parle depuis un moment aussi, c'est par rapport au logement vide. Voilà, ben, à Lyon, hein, comme partout ailleurs, ben, y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a près de 30 000 logements vides. Donc ça, c'est les places de logement du coup de particuliers, en fait, hein, sans compter donc du coup tous les locaux, tous les bureaux qui sont vides aussi, qu'on pourra ajouter du coup des dizaines de milliers. Voilà, les logements du coup vacants. Du coup, en 1968, il y en avait 6285, et en 2013, donc 25 000, presque 26 000. Et donc, on imagine qu'en 2017, aujourd'hui, ça a encore dû augmenter. Donc voilà. Et il y a aussi une petite polémique avec l'adjointe, je crois, à la mairie de Lyon, qui avait refusé d'ouvrir des gymnases en disant qu'il faisait pas assez froid dehors. Donc voilà, c'est vrai qu'à moins de 2 degrés, il fait pas assez froid. Et donc, du coup, là, c'est un petit article que j'ai trouvé, du coup, avec les professionnels, du coup, de l'aide à l'urgence sociale. Parce que, du coup, il y a évidemment, effectivement, 200 nouvelles places d'hébergement et un gymnase qui ont été ouverts, mais c'est toujours insuffisant. Donc voilà, parce que du coup pour les sans-abri, bah du coup faut se trimballer d'un gymnase à l'autre. Le gymnase ça dure que la soirée. Ça veut dire que vous imaginez un gymnase avec une centaine de lits de camp. Donc voilà, il y a aucune intimité, il y a rien. Vous dormez sur votre petit lit de camp et puis le lendemain matin, bah faut ressortir dehors jusqu'au soir. Donc voilà. La préfecture elle continue des ouvertures puis a communiqué dessus, mais on sait que c'est pas suffisant. Voilà, et donc le FNARS, la fédération qui regroupe les associations de l'hébergement d'urgence, évoque le chiffre de 2000 personnes sans solution. 2000 sur Lyon, hein, voilà, qui après avoir appelé le 115, bah, se retrouve sans place parce qu'il n'y a absolument rien. Donc voilà, 20h16 déjà.
Juste pour rajouter là, par rapport au point où tu disais, on peut aussi parler justement par rapport aux conséquences désastreuses que peuvent avoir ces nouvelles réglementations qui disent en gros entre le logement et le renvoi au pays d'origine. Il y a un jeune étudiant sans papier qui s'est suicidé cette semaine, si je ne me trompe pas, en se jetant par sa fenêtre. Suite justement. Ah, tu voulais en parler. Bon.
Non, mais je te laisse finir, vas-y, je t'en prie.
Non, mais alors, du coup, vas-y. Hein. Je ne savais pas si tu l'avais prévu.
Ouais, j'enchaîne avec ça. Je voulais enchaîner, du coup, à ce qui se passait ailleurs en France, notamment à Paris. Et puis aussi, voilà, pour parler, du coup, de cette personne-là, donc Danko Sissoko, un jeune malien qui est arrivé en France, voilà, quand tu disais qu'il s'est suicidé vendredi, en se jetant du 8e étage du foyer d'où il allait être chassé, faute d'avoir été reconnu mineur par les services de l'État. On en a longuement parlé, ça aussi, hein, de ces histoires de mineurs que la justice est passée pour des majeurs. On rappelle leur parcours, hein, ces personnes-là de coup, quittent leur pays effectivement en étant mineurs, donc se font des faux papiers pour passer les frontières, passer pour majeurs, mais qu'ensuite effectivement c'est pas leur vrai papier, donc du coup ils sont effectivement mineurs. Il y a ces fameux tests osseux de merde là qui permettent de dire qu'un gamin de 15 ans a 35 ans, donc voilà, qui sont condamnés, qui font de la tôle avant d'aller en centre de rétention et avant d'être expulsés. Donc lui il a pas supporté ça. Donc du coup il s'est suicidé. Et donc ce drame du coup met en lumière la tragédie que vivent donc ces jeunes étrangers livrés au tamis de l'évaluation et de la pression institutionnelle, maltraités, suspectés, dénigrés, parce que la France ne veut pas les accueillir. Donc voilà, vous pourrez lire l'article, hein, du coup, je sais plus sur quoi il est, enfin je crois que sur Parlut Info, ou peut-être même sur Rebellion, enfin je sais plus, vous pourrez trouver ça. Donc voilà, il y a des petits témoignages de ses camarades, hein, qui insistent bien sur le fait que Nanko était quelqu'un qui voulait juste rester ici tranquillement, il était pas malade, ni drogué, ni fou, hein, son geste n'est pas celui d'un dépressif. C'était pas non plus un criminel, ni un malfrat, et encore, qu'est-ce que ça ferait? Il n'avait rien à se reprocher, donc voilà, il s'est jeté du 8e parce que comme un jeune de 16 ans, moralement très structuré, et qui a en outre assimilé l'impératif et la mission de réussir en France, il n'aurait pas supporté l'idée humiliante qu'on vienne l'arrêter et le mettre en prison. Du coup, il y avait une marche silencieuse aujourd'hui. Donc, on vous dira un peu la semaine prochaine ce que ça a donné. Voilà, pour Sissoko. Voilà, c'était à 15h, rue Carnot. C'est devant le conseil départemental de la Marne. Et pour finir sur cette page, pour ce qui se passe à Paris, vous savez qu'à Paris, il y a régulièrement des camps qui se mettent en place, qui sont tout le temps évacués par violence avec la police. Il y a eu cette fameuse histoire là de policiers de coup qui piquaient les couvertures aux migrants. Hein, voilà,
ah, du coup, par camp, on entend quelques toiles de tente et des personnes qui se regroupent un peu dans la rue, quoi.
Ouais. Et donc là, il y avait un campement du coup qui s'était remis rue Pajol. C'est pas la première fois, et là du coup c'était fait du coup encore de façon volontaire avec de l'aide que ce camp se réinstalle. Et ben du coup, le 9 janvier, et ben les CRS secondés par les équipes municipales ont utilisé la violence pour détruire la trentaine de tentes des migrants refoulés par le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. Leurs affaires ont fini dans les bennes de la propreté de Paris. Donc voilà, encore un camp qui est démonté.
Et les signalements divers aussi de vols de couverture.
De vols, il les brûle a priori de temps en temps, oui. Aussi. Moi, j'ai entendu ça à Perrache il n'y a pas très longtemps.
Par Médecins Sans Frontières.
Ouais. Et du coup, voilà, il y a un autre article aussi qui parle un petit peu de ce qui se passe à Saint-Denis. Voilà, pareil avec l'expulsion ce coup-ci d'un bidonville. Donc voilà, ça s'est passé la semaine dernière, le 5 janvier. Enseignante de l'éducation nationale et antenne solidaire et antenne scolaire mobile, nous venons faire classe sur le bidonville situé au 40 avenue de Stalingrad à Saint-Denis. 13 camions de CRS sont sur place depuis 8h ce jour-là. Ils sont dehors, équipés, matraques et flashball en évidence, police et préfecture à leur côté. Voilà, et donc du coup ils ont tout gerté comme d'habitude, donc c'est qu'on a du monde de mobiliser là-bas sur Saint-Denis. Ils font du bon boulot, mais voilà, à chaque fois c'est un espèce de recommencement à zéro avec toutes ces expulsions. On souhaite bon courage à tout le monde et on espère que la solidarité va se multiplier, que les camps vont se multiplier jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir un abri. Voilà pour la première petite page, enfin
okay,
grande page.
Ok, c'est parti pour la première pause musicale. On va lancer Amélie Les Crayons avec la chanson La Dernière des Filles du Monde.
Je serai la dernière des filles du monde. Adieu ces quatre barrières qu'elles tombent. cache plus derrière, je suis dans la ronde. Au trou, les mégères avec les blondes. S'il avait su mon père que je serais la dernière, il m'aurait peinte tout entière. S'il avait su mon père que je serais la dernière, il m'aurait peinte tout entière. Je suis tellement fière que les hommes fondent pour moi qui suis la dernière des filles du monde. Ils cherchent une femme, une mère, une main, une ombre, un filet de lumière dans leur vie sombre. S'il avait su mon père que je serais la dernière, il m'aurait peinte tout entière. S'il avait su mon père que je serais la dernière, il m'aurait peinte tout entière. Mais c'est pourtant très clair, je ne suis pas féconde. Et de ne pas voir mon derrière, ça les plombe. On ne fait pas marche arrière avec des bombes. Ils redeviennent poussière et ils succombent. S'il avait su mon père que je serais la dernière, il m'aurait peinte tout entière. S'il avait su mon père que je serais la dernière, il m'aurait peinte tout entière. C'est le début d'une ère, une nouvelle onde, pour la toute première des dames du monde. C'est le début d'une ère, pour la belle de la terre, pour Miss Joconde. Et si Mona Lisa était un homme, sous son sourire narquois derrière sa trogne, le plus grand pied de nez de tous les temps, on entend Léonard du fond de sa tombe, qui se poile, qui se marre avec.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Radio Canu au 102.2 et c'est Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et je vais laisser la parole à la rubrique Lutte sociale.
Allez, des luttes sociales, il y en aura toujours, je pense. Et on va aller à Rennes, en Bretagne, donc, avec une manifestation d'agentes territoriales, ce qu'on appelle les ATSEM, agentes territoriales de, je ne sais plus quoi, scolaires, je crois, il me semble. Donc une trentaine de personnes en direction de la préfecture, une action pour montrer leur situation. 80% donc de ces personnes ATSEM sont des femmes dont les contrats sont précaires, à mi-temps généralement, un mi-temps qui leur est imposé d'ailleurs, hein, c'est pas voulu, avec des rémunérations insuffisantes également. Donc les agentes revendiquent aussi la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Elles ont fait grève à la mi-décembre, déjà dans un premier temps, lors de cette grève nationale-là. À Brest, donc toujours en Bretagne, avec 86%, c'est un taux, je dirais, intéressant de grévistes chez Bibus. Bibus, c'est le groupe Keolis, donc on est dans les transports en commun de la ville de Brest, ici, soit la quasi-totalité des 365 conducteurs de tram et de bus. Et c'est la CFDT qui drive, il faut le dire. Et pas souvent.
Doucement.
On les tense souvent, mais là, il faut dire que là, ils étaient donc en tête de cette lutte. Une grève qui a été reconduite à la mi-décembre en Assemblée Générale. Oui, parce que là, il faut que je précise que c'est encore des luttes de décembre. Hein. Je finis le mois de décembre. Voilà. N'est-ce pas? Donc, c'était décidé en Assemblée Générale, bien sûr, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui fâche ici? Ben, c'est que la direction pratique une politique de la prime et augmentation salariale à la tête du service. C'est ainsi que 18 régulateurs, qui sont des postes de commandement, ont reçu 8 points de mieux. Donc jalousie, non. Égalité, oui. Le traitement des salaires doit se faire avec les partenaires sociaux. Foi de CFDT. Et c'est pour tous et toutes, foi toujours de CFDT. Pour la direction, c'est une augmentation de la responsabilité. Et ben les autres, c'est bonjour de la biquette, quoi, pour eux. À Châtellerault, dans la Vienne, c'est une grève qui a démarré le 12 décembre avec dans l'entreprise Céramique Coating Center, une entreprise sous-traitante de l'industrie aéronautique qui bosse pour Safran notamment. Les grévistes ont dit clairement à leur direction d'arrêter de les prendre pour des billes avec leurs 2% d'augmentation et une prime d'habillage à 11 euros. Une majorité se sont mises en grève pour répondre à l'insulte entre guillemets. Ils revendiquent 4% annuel pour les 5 années à venir et 45 euros pour la prime. Le 21 décembre, la grève était toujours en place. Une trentaine de personnes sur 50 au début, un peu plus par la suite. Et aussi le soutien de salariés de Safran, ce qui est à noter. Donc les salariés l'ont un peu en travers ici, car ils donnent de la sueur à l'entreprise, heures supplémentaires et travaillent le samedi. Ce qui amène évidemment un gros chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et ils n'en voient pas le retour. À Rennes, encore en Bretagne, donc avec 300 personnes en manifestation, c'est à la mi-décembre, toujours avec un soutien en force pour un squat rennais, la poterie, c'est son nom. Donc ce n'était pas la première manifestation, la première action. Une précédente action avait permis la mise en route du chauffage dans le squat qui accueille nombre de migrants. Un bon nombre de migrants, donc les soutiens ne s'en tiennent pas qu'à une action en fait, et ils et elles ont décidé de se retrouver chaque mois dans la rue pour obtenir des papiers pour les migrants et migrantes devant cette forte mobilisation et répétée en fait, puisque la ville de Rennes a finalement cédé et a proposé un contrat d'occupation aux associations occupantes du local qui est en fait une ancienne maison de retraite qui est totalement inoccupé. Il y a 27 associations qui sont dans ce collectif, des syndicats, des groupes politiques, et 160 personnes y prendront place, dont 70 enfants. Cette ancienne maison de retraite est la propriété d'un groupe immobilier qui s'appelle Lamotte, qui apparemment n'a pas mouveté, et est même prêt à signer un commoda, vous voyez ce que c'est ? Non, mais j'ai l'explication. Je vais faire le pédago quand même encore.
Merci.
Donc, est prêt à signer un commoda avec l'association Un Toit, c'est un droit. Ouais. Alors, ce fameux commoda, c'est pas un bail, mais plutôt un prêt. Un contrat entre deux parties, dont l'une, donc l'occupant, s'engage à rendre après usage. Voilà, et c'est gratuit. Donc en gros, on peut aller rechercher plus amples informations là-dessus, mais c'est intéressant.
Donc, plutôt la classe, notre mouvement en tout cas, qui arrive comme ça.
Je continue.
On se mobilise tous les mois là pour aboutir à ça. C'est plutôt intéressant parce que du coup, ça se passe pas trop ailleurs, donc plutôt bien.
Ouais. Donc à Lalinde, maintenant, c'est dans le 24, le département 24, c'est là. Dordogne, voilà, merci. Une papeterie qui s'appelle Rotersac, une grève du 2 janvier avec, on attaque 2017 maintenant, donc c'est au 2 janvier avec 80% de participantes et participants. Une grève reconduite par l'équipe de nuit. En effet, la boîte, elle tourne en 5 x 8. Je ne vous dis pas comment ça doit faire, 5 x 8, c'est-à-dire que c'est de travailler le dimanche, le samedi... Et bref, avec des horaires quasi incroyables, quoi. Grève donc de soutien à un collègue responsable d'équipe d'entretien à qui la direction colle sur le dos la casse d'une pièce sur une machine. Elle le licencie pour faute grave, donc c'est assez facile, alors que le coupable est un directeur adjoint qui avait donné l'ordre d'une réparation sommaire. Ça a duré 2 mois alors que la pièce de remplacement commandée était disponible finalement. Donc bien sûr, quand on remplace une pièce sur une machine, ça nécessite un arrêt de la machine et de la et de la production. Là aussi, on peut parler du droit de retrait à exercer aussi dans ces cas-là. Hein, c'est pas souvent, on l'applique de temps en temps, on entend parler. Mais le droit de retrait, c'est vrai que ça pourrait être une arme aussi pour des fois affirmer ses prétentions, on va dire, hein, entre guillemets. Donc le droit de retrait, j'ai fait aussi un petit boulot là-dessus. Je vais vous citer, hein, c'est très court. J'ai récapitulé. Donc tout travailleur en situation de travail sur n'importe quel site peut user de son droit de retrait d'une situation présentant un danger grave et imminent. Le salarié doit en informer l'employeur en gardant la justification évidemment de l'information, soit par une lettre commandée, soit par même un SMS. Et le droit de retrait, ben, il faut qu'il soit motivé bien entendu. Ah ouais. Et il n'entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire. Et c'est l'article L4131-3 du Code du travail.
Après, il faut que la raison soit jugée recevable par l'employeur aussi après derrière.
Tout à fait, mais c'est bon de le savoir et de l'appliquer de temps en temps. Je pense que ça changerait pas mal des choses. Voilà pour cette première page.
Eh bien, je laisse la parole aux camarades.
Donc oui, on va parler d'une affaire qui n'est pas sans rappeler à Béziers avec Robert Ménard. Donc c'est actuellement à Ventabren, le maire a équipé la police municipale d'une mitraillette pour traquer les cambrioleurs.
Ah, ça fait rigoler, mais c'est pas drôle.
Non, mais... ça nous fait marrer.
Ouais,
c'est pas drôle. Donc après avoir installé des panneaux à l'entrée du village, le maire a posé en photo avec un policier municipal armé d'une mitraillette. Donc Claude Philippi, le maire RPR, UMPLR, franchement je sais même pas de quelle partie...
ouais, LR quoi, du coup. Les...
Ça finit. Devant Tambran, donc il s'est affiché très fièrement... dans sa dérive sécuritaire dans son village de 5000 habitants situé non loin d'Aix. Donc il a fait récemment installer des panneaux à l'entrée des villages donc censés prévenir les cambrioleurs comme quoi ils n'y sont pas les bienvenus.
Donc c'est vrai que ça va faire peur.
Ouais, c'est...
ne venez pas.
Donc ce maire et les policiers proclament devant une photo avec qui ressemble à un CRS armé d'un flashball, avec le message écrit « Chez nous, à Ventembran, les cambrioleurs sont traqués.
»
C'est un slogan quand même au Roland d'extrême droite. Et avec des panneaux inesthétiques qui ont fait réagir d'ailleurs les habitants du village, qui ceux-ci d'ailleurs ont mis une pétition réclamant que Claude Philippi fasse déposer ces panneaux. En voici un court texte. « Des panneaux ont fleuri en cette fin d'année aux entrées de notre commune. Parce que nous trouvons ces panneaux inesthétiques, anxiogènes, inutiles, dégradants, grotesques, nous demandons au conseil municipal de les déposer. »
Alors par contre, c'est marrant, les mitraillettes ne les dérangent pas, c'est les panneaux.
c'est inélégant, ils l'ont dit.
Donc, cette pétition illustre bien et illustrée par une image bien peu rassurante. On y voit le maire et un individu que nous n'avons pu identifier, posé en présence de deux policiers municipaux dont l'un a le doigt posé sur la gâchette d'un pistolet mitrailleur. Outre le caractère inquiétant de cet armement, on se demande depuis quand la police municipale peut bénéficier d'armes automatiques à plusieurs coups. Donc moi, personnellement, ça me rappelle la campagne qu'a fait Robert Ménard à Béziers. Ouais. Donc ce maire qui est proche du FN, qui a mis des affiches avec un pistolet, je sais pas, avec marqué la police municipale un nouvel ami.
C'est bien ça, voilà.
Ouais, non, puis petit à petit ça monte quoi. C'est bientôt ça sera des bazookas anti-squats et je ne sais quoi.
Ça, le coup du mitrailleur pour les cambrioleurs, c'est quand même pas mal quoi.
Ah, c'était dégueulasse.
Un mitrailleur. La suite, très cher coordinateur de l'émission.
Eh bien, la suite, c'est une deuxième pause musicale avec toujours Amélie les crayons et cette fois la chanson Calée sur la lune. C'est parti.
Es-tu l'ignore, une fille en rut. Thank you.
Bonsoir, c'est toujours Radio Canu avec Idées Noires. Je laisse la parole maintenant pour un point
international. Ouais, alors du coup, plusieurs petits trucs sur l'international, enfin plutôt gros quand même, mais il y a le directeur de publication de Maidan Gazette, donc le journal plutôt officiel de la Fédération anarchiste turque et aussi du groupe anarcha-féministe Anarchiste Kadınlar qui a été arrêté en Turquie et qui va sûrement prendre 6 à 2 ans de prison. Donc voilà, ça donne envie d'écrire des trucs à nard. Et ensuite, il y a eu aussi des camarades du Footnote Bomb aux États-Unis qui se sont fait arrêter en pleine distribution. Et du coup, qui risquent d'avoir des grosses arrestations.
Footnote Bomb, si tu peux dire en deux mots juste ce que c'est.
Ouais, alors le Footnote Bomb, deux petits trucs, c'est... En fait, c'est une organisation qui était au départ faite contre contre l'idée de dire contre la guerre, nous on oppose la solidarité avec de la bouffe et de la solidarité en acte en fait. Et le Footnote Bomb, en gros, ils arrivent avec des marmites pleines de bouffe, des brochures et ils essaient d'organiser la solidarité dans la rue quoi.
Beaucoup de bases de récup.
Voilà, exactement, il y a le but de ça et donc ils sont fait arrêter par les flics là-bas en pleine distribution avec menottés et tout et a priori ils vont manger pour une question d'élite solidarité aussi. Voilà. Sur l'international.
C'est tout, tu t'arrêtes là ?
C'est moche. Pas autre chose à nous dire ? On a comme un doute.
Je complète juste avec la Turquie puis après je te laisserai la parole de nouveau.
OK, vas-y.
Ouais, du coup tu faisais tout à l'heure donc allusion à la personne qui a été arrêtée là et du coup il y a un petit article qui est sorti là aussi sur trouvé sur Nouvelle Turquie. Du coup, en 8 ans là depuis que Erdogan fait un peu ce qu'il veut, il y a eu 2300 personnes mortes en prison. Donc voilà, c'était en réponse à une question du coup d'un parlementaire. Que le ministre de la Justice a donné le nombre de personnes emprisonnées et combien ils sont mortes depuis 2009. Donc dans sa réponse, il a aussi avoué que la capacité totale des prisons de Turquie a été dépassée de au moins 5000 personnes. Voilà, depuis, il a déclaré ce chiffre-là, du coup que 2300 personnes ont perdu la vie ces 8 dernières années. En 10 ans, officiellement, il y a eu aussi 19 368 plaintes de violations des droits et de traitements injustes enregistrées par le ministère, donc plus toutes les violations des droits qui sont faites, mais sans les plaintes, donc on peut multiplier par 3 ou 4, je pense. Donc voilà, et puis aussi d'après une autre association, du coup, aussi en prison en Turquie en ce moment, donc il y a 905 personnes malades, dont 323 très gravement qui sont emprisonnées en Turquie, vu qu'il fait un peu ce qu'il veut. Il a continué encore les arrestations, on a vu là, avec la purge qui continue. Ouais. Puis, vous parlez vite fait un petit peu des États-Unis ?
Ouais, alors sur les États-Unis, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, l'investiture de Trump se prépare, et ce qui est plutôt intéressant, c'est que la riposte aussi. Et donc, il y a une tentative de grève générale qui est appelée, a priori, majoritairement par l'IWW. Il y a des appels qui sont faits par beaucoup de camarades anars ou communistes libertaires là-bas pour aller opposer à Trump de manière plutôt violente dans la rue. Donc, on verra ce que ça donnera. Il y a aussi une démarche qui sont organisées, alors plus ou moins pacifiques suivant l'endroit, plutôt appelées par des féministes américaines, justement, pour opposer à la politique transphobe, homophobe et antiféministe de Trump et bien sûr aussi raciste. Voilà. Et donc, on espère que ça va bien se passer.
Voilà. Puis on espère aussi que, pourquoi pas, il y a aussi des marches de ce type-là en France et pourquoi pas à Lyon. On vous en parlera si ça se fait la semaine prochaine, parce que du coup, le 21, c'est samedi prochain et l'investiture de ce fameux nouveau président, c'est le 20. Voilà.
Ben, on en profite pour te laisser la parole pour continuer sur petit point réflexion autour de la loi travail.
Ouais, assez rapidement parce que du coup on avait parlé, alors je crois que ça remonte à 2 ans ou même 3 ans maintenant, on avait reçu un courrier d'une personne qui s'appelle Damien Camelio qui était emprisonné à Pau suite à un jet de cocktail Molotov, je crois, sur une église, qui avait été arrêté, avait fait 2 ans de taule. Il nous avait écrit parce qu'il connaissait, avant il était sur Lyon, connaissait du coup la plume noire, donc il avait écrit quand il était en détention. Du coup, on avait un peu correspondu là pendant quelques temps. Voilà, donc il se trouve qu'il est sorti de prison, mais il se trouve que de nouveau, il est en détention préventive à la prison de Fleury, ce coup-ci. Voilà, suite à une manifestation. Alors, il y a un article qui traîne, vous tapez événement du 14 avril 2016, hein, sur une manif spontanée, qui avait l'air plutôt rigolote. Et donc, du coup, il a été arrêté dans ce cadre-là, perquisitionné chez lui. Voilà, en plus ils ont trouvé chez lui du matériel de propagande anarchiste, oh mon Dieu, quelle horreur. Et donc du coup, voilà, donc pour l'instant il est toujours en préventive, sa demande de libération a été refusée.
Ça ouais, sous-entend que le matériel de propagande anarchiste est interdit
Ouais, voilà, on sait pas trop, voilà.
Bah, les lois, c'est les rats.
Et du coup, si vous voulez écrire à Damien, donc je vous donne du coup les coordonnées, Damien Camelio, numéro d'écrou 432-888... Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, bâtiment D5, 7 avenue des Peupliers, 91-705, Sainte-Geneviève-des-Bois. En France, voilà, vous verrez, il y a un article du coup aussi sur Paris Lutte Info, du coup, où il y a une lettre de Damien du coup, qui explique un peu tout ça. Donc voilà, pour parler aussi assez rapidement de. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire du coup de voiture incendiée là.
À Paris ?
Ouais, sur Paris.
Voilà, pareil, lors du mouvement contre la loi travail. Voilà, il y a toujours une personne qui est.
Du coup, on parle d'une voiture de flic. Hein,
oui, pardon, excusez-moi. Ouais. La voiture de flic avec le.
Oui, c'était Porsche pas la Porsche.
Non, non, avec le policier kung-fu là. Vous rappelez là, celui qui a eu la médaille après là par la El Presidente.
Ah non, moi j'ai pas vu.
Bah, il sortait de sa voiture puis il s'était mis en posture kung-fu pour se défendre et tout ça. C'était très rigolo. Du coup, il y a toujours une personne, Antonien Bernanos, du coup, qui est un des 7 mis en examen. Bah, lui, c'est le seul qui reste en détention. Sur la base d'une déposition qui est quand même assez, assez bizarre. Donc voilà, pour ses parents, donc, ça fait déjà 237 jours, soit 7 mois et 27 jours que Antonin est en prison pour tentative d'homicide volontaire. Donc voilà, on vous rappelle un peu les faits. Donc le 18 mai 2016, en marge d'une manifestation contre la violence policière, donc un groupe d'individus a attaqué une voiture de police qui se trouvait là aussi. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette voiture de police, on se demande. Du coup, franchement, ça a été filmé, ça a fait le tour de tous les médias nationaux, européens et internationaux, parce que du coup, les gens avaient peur de venir à Paris après, les pauvres petits touristes. Donc voilà, puis du coup, c'est toujours dans ces cas-là, quand ça va un peu plus haut, bah, du coup, le ministère de l'Intérieur dit, bah, du coup, on va sévir une bonne fois, donc on arrête des gens, pourquoi pas aussi au hasard.
Pour l'exemple.
Voilà, ouais, donc quelques heures à peine après l'attaque. Donc du coup, la direction du renseignement de la préfecture de police avait fourni à la police judiciaire les noms de 4 suspects, tous impliqués dans la mouvance antifasciste. Donc 2 frères, Angèle et Antonin, donc, qui est toujours lui en tôle. Tous 2 étudiants qui sont arrêtés le soir même à leur domicile parisien, et les 2 autres qui sont interpellés dans la soirée et le lendemain matin. Ces arrestations se fondent du coup sur les seules déclarations d'un témoin sous X. Or, le nom et l'affectation de ce témoin anonyme ont été versés par erreur à la procédure. Et c'est là que c'est très drôle, parce qu'il se trouve qu'il s'agit d'un policier de cette direction de renseignement de la préfecture de police qui était en mission infiltrée parmi les manifestants. Donc là, c'est quand même très bon ça. Hein. Donc dans son procès verbal, le fonctionnaire du renseignement déclare avoir vu distinctement au départ, hein, les 4 personnes interpellées sur les lieux de l'agression. Donc voilà. Plus loin, le même témoin confirme avoir vu du coup une personne se cacher le visage, ça c'est pas bien, et un autre mettre sa capuche et son cache-colle. Ouah, c'est ouf quand même. Donc voilà. Donc dès le 24 mai, en l'absence d'éléments probants, bah il y en a 2 qui ont été remis en liberté. Le frère d'Antonin, lui, qui reste soupçonné d'être l'auteur de l'agression à la tige de fer sur donc, ce fameux Kevin Philippi, surnommé le policier kung-fu.
Ce qui est marrant, c'est que sur la vidéo, on a quand même plutôt l'impression d'un bâton en plastique.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais, parce que du coup, la tige là, ouais. C'est quoi du coup la tige en quoi ? Je ne sais plus ce que
en
j'ai
fer,
dit.
T'as dit
en fer. Ouais, alors qu'elle est vachement souple, en fait, on dirait absolument un truc de drapeau. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, bah, pourquoi il est toujours en tôle ? Parce que du coup, le plus jeune des frères portait en effet ce jour-là une veste de la même marque North Face que l'agresseur masqué, donc qu'on a vu sur les vidéos. Donc forcément, il y en a qu'un qui l'a porté cette veste, hein, dans toute la France, c'est bien connu, voilà.
C'est rare, hein.
Voilà. Mais du coup, cette personne-là, du coup, après 42 jours de prison, du coup, c'était le frère, du coup, pardon, a été libéré à son tour après qu'un certain Nicolas F, hein, petit-fils d'officier militaire et ancien scout, a reconnu en être lui-même l'auteur. C'est bien, c'est le côté catholique qui ressortait.
De l'action française.
je vais prendre sur moi un petit peu. Donc voilà, donc il n'y en a plus qu'un qui reste en prison, donc c'est assez fou. Et voilà, les déclarations sont hyper fragiles. Voilà, en gros, il dit que comme tout le monde était masqué, qu'il avait le policier dit du coup qu'il avait suivi cette personne-là du début de la manif jusqu'à la fin et que du coup il avait reconnu du coup la même personne qui s'attaquait à la voiture de police, qui avait donc jeté un plot sur le pare-brise arrière de la voiture qui s'était brisé, et en fait après c'est un autre qui a balancé un fumigène à l'intérieur et qui a fait un joli feu. Ouais. Donc voilà, donc ça à suivre encore une fois, bien évidemment. Je vais laisser.
Puis, pour l'histoire de la loi travail, il y a eu les premières applications de la loi travail qui sont tombées là dernièrement. Là, je m'en rappelle plus exactement, mais sur un journal qui a licencié 25% de ses effectifs.
Parce qu'il avait dû perdre un peu d'argent sur 3 mois, un truc comme ça.
Voilà, c'est ça. Non, en fait, ils sont même pas besoin en plus. Même pas besoin.
Oui, au 1er janvier, il y a sur le temps de travail qui est rentré et sur les accords de branche.
C'est ça, ouais.
Accords entreprises qui sont au-dessus des accords de branche et des conventions.
Qui sont rentrés en normes à partir du 1er janvier.
On va surveiller. Ce qui serait vachement intéressant, c'est de faire un point global sur toutes les lois de merde qui nous ont fait en 5 ans, la loi Rebsamen, la NI, la loi Macron.
Tu es en train de faire un appel à la commission syndicale, je crois.
Pas du tout, un petit peu comme ça. Puis notamment aussi sur les applications, parce qu'effectivement, les décrets d'application, ils étaient attendus par tous les chefs d'entreprise, je crois. Et donc, ils sont arrivés là.
Par les syndicalistes aussi.
Entre novembre et fin décembre, pendant les vacances de Noël notamment, avec pas mal de décrets d'application qui sont sortis.
Fête.
C'est ça, exactement. Donc voilà, on va peut-être faire la deuxième page de lutte, parce que
c'est
déjà
ça, je crois qu'on va
20h47.
La parole pour les luttes sociales.
Tout à fait.
Bon, allez, c'est reparti pour un tour avec Pontoise, dans le 95 département, donc près de Paris, avec du personnel hospitalier en colère. Hein, il y en a beaucoup en ce moment dans les hôpitaux. Là, ils sont débordés dans les services d'urgence avec les épidémies de grippe et tout. Donc, on entend beaucoup parler de ça. Donc là, c'est la rubrique des hospitaliers en colère. Et ici, à Pontoise, c'est le centre René Dubos, centre hospitalier, avec une grève de la faim qui avait été prévu, mais qui a été reporté. Et aussi un truc un peu ouf, en fait, puisqu'il voulait sauter dans l'Oise, d'un pont. Alors, à cette époque-là, sauter dans l'Oise...
Les grévistes, du coup, ouais.
Oui. D'accord, okay, il voulait marquer le coup avec ça. Ouais. En fait, donc c'est un peu risqué quand même. Mais en fait, ils l'ont pas fait, puisque cette action a été interdite par un arrêté préfectoral le 5 janvier.
Ils ont failli vous mourir, en plus après ça aurait fini en taule.
C'est vrai qu'il y a des trucs des fois qui sont un peu bizarres. Donc c'est une grève illimitée qui dénonce bien sûr les conditions de travail. L'intersyndical propose donc des assemblées générales qui se font. Hein. Alors, il y a aussi un truc original. Ils sont très originaux, ces gens-là, donc du centre hospitalier René Dubos. Eh bien, c'est que le personnel a sorti un calendrier relatant les difficultés dans leur travail, et un calendrier qui a eu donc un certain succès. Voilà. À Chartres, maintenant, c'est à partir du 2 janvier, sont les hôpitaux de la ville de Chartres, donc, dont les salariés, évidemment, les personnels soignants et administratifs qui ont été appelés par la CGT et FO à démarrer la grève et dénoncer le groupement hospitalier de territoire. Je rappelle que c'est le projet de Marisol Touraine, 135 groupements hospitaliers en France, pour précise-t-elle de favoriser le travail en réseau de 850 hôpitaux en faveur de l'accès aux soins. Je ne sais pas s'il faut rigoler avec ça, mais bon, bref, elle a mis dans la caisse quand même 10 millions d'euros, budget de cette réforme, qui a été mise donc en application en janvier 2016. En force, puisque selon la CGT et d'autres, la ministre n'a pas daigné s'entretenir avec les concernés, c'est-à-dire les personnels des hôpitaux, et peut-être aussi, après tout, pourquoi pas les patients et les patientes aussi, leur demander leur avis quand même. Cela va entraîner donc des suppressions de lits, 16 000, et de postes de travail aussi, 22 000. Le but, évidemment, c'est de faire des économies. Des économies. À Angers, maintenant, avec le CHU, donc maintenant un centre hospitalier universitaire, et sont là le service d'urgence, des urgences, les personnels donc santé et non soignants, donc qui étaient en grève le 3 janvier, une suite à celle de juin 2016, d'une durée qui avait duré un mois quand même. La direction à cette époque s'était engagée à repousser, mais seulement repousser, un projet de reconditionnement je dirais entre guillemets, des services, avec promesse de réaliser une étude sérieuse et complète de la situation des urgences menteuses. Eh bien, la direction tente en force, cette fois, à l'image d'un Valls avec son 49.3, de passer son projet au 9 janvier, donc c'était hier ou avant-hier. Donc CQFD, la CGT, FO et Sud a appelé à la mobilisation avec un peu plus de colère qu'en 2016. À Longuenès, c'est dans le Pas-de-Calais avec un centre d'appel cette fois, le centre Camaris, qui ne tourne pas apparemment comme une horloge, puisque des mécontents et mécontentes se sont signalés avec leur syndicat, la CGT, qui est minoritaire dans l'établissement, et avec quand même 30 salariés sur 371, ça fait pas lourdingue, le 3 janvier, puis le 5, pour dénoncer la pression constante du staff, le manque de respect et les salaires pauvres. Gain de la lutte, et bien des courbettes de la direction sur le respect, entre autres, mise en place de groupes d'échange tous les mois, patati donc patata, avec la CGT et FO. En fait, le syndicat majoritaire dans l'entreprise, c'est FO. Mais question thune, ben que dalle, les propositions CGT seront étudiées en fin d'année. Il y a des fois des trucs à redire sur la, sur la démocratie. Le centre en question bosse pour SFR dans le campus, ne rigolez pas, dans le campus de la Malassise. La vie du centre est pendue à un fil entre les doigts de SFR qui peut balancer le contrat du jour au lendemain à n'importe quel moment. Et puis, transférer l'activité dans un pays à bas coût plus rentable pour eux.
Moins syndiqué.
Je continue. Allez, avec cette info en Gironde, là, qui nous vient de Gironde, donc, et plus particulièrement du SAMU 33, et plus particulièrement des 48 salariés assistants et assistantes de régulation médicale. C'était le 10, ils étaient en grève. 48 personnes qui en ont ras la casquette de leurs conditions de travail. 1 million d'appels à l'année et la direction qui ne leur dit même pas merci. Et au contraire, ils les enfoncent un petit peu plus. Ils et elles exigent un effectif à la hauteur de la demande. De la demande de travail. Ce mouvement fait suite à d'autres ces derniers mois, dont à Bordeaux en novembre 2016, et ce slogan qui avait été bien envoyé par des infirmières. Alors je vous cite le slogan, ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Hein ?
Quoi ?
Bah oui. Et puis pour terminer, dans l'Allier, c'est à Yzeure, c'est dans l'Allier, dans le département de l'Allier, chez Engie. Donc la grosse boîte Engie, anciennement GDF Suez, dont l'actionnaire principal, c'est l'État. Dans cette petite agence, eh bien, il y a 9 salariés qui se sont mis en grève. Leur boulot, c'est le dépannage à toute heure, comme le casse-croûte d'ailleurs. Seulement à 9, pour assurer la demande qui est importante, ils et elles exigent d'être dépannés eux-mêmes de quelques membres supplémentaires. En clair, ils exigent de l'effectif pour assurer la douzaine d'interventions par jour. Ils précisent dans leur communiqué qu'ils sont payés à la hauteur du SMIC. Voilà.
D'accord. Puis, du coup, on va finir avec quelques petites brèves là que j'ai trouvées. Enfin, avec le climat du coup là dans ce pays qui est de plus en plus puant, avec à Nantes notamment dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier, le local de l'association Aide qui a été vandalisé. C'est en rapport notamment avec leur dernière campagne de prévention, plus particulièrement celle où deux hommes nus dansent ensemble. Donc voilà, ils ont un tout petit communiqué. Il s'agit bel et bien d'un acte homophobe. Dans ce contexte puant, l'ensemble des militantes et militants de Nantes reste vigilante et vigilante face à ces actes lamentables. Plus que jamais, nous restons et resterons mobilisés, visibles, en vie et fiers. Et comme dirait notre chère Lily Allen, fuck you. Donc voilà pour le communiqué. Petit communiqué de l'association Aide de Nantes. Une autre agression du coup du côté de... Alors c'est un communiqué de la section Sudrail de Sarcelles. Ouais. À la gare Sarcelles-Sainte-Brice du coup avec un agent. Qui a été frappé au visage par une personne qui tenait des propos racistes et qui criait du coup la France aux Français. Donc il y a un petit communiqué Sudrail, je propose pour vous parler. Alors c'est pas l'annonce, moi je ne me rappelle plus de la date, mais du coup les camarades d'Alternative Libertaire de Lyon là, qui organisent une petite soirée dans les locaux de la CNT. Alors il me semble que c'est la semaine prochaine, mais on vous redira ça comme il faut. Avec une invitation avec des syndicalistes de Visa, ce réseau de vigilance antifasciste, on en a déjà parlé, qui regroupe plusieurs syndicalistes de différents syndicats. Donc voilà, une soirée assez intéressante, notamment par rapport aux brochures qu'elles émettent du coup Visa. Il y a pas mal de brochures notamment sur comment lutter contre le FN, et notamment c'était, j'en avais parlé une semaine du coup, parce que du coup leurs communiqués généralement sont très centrés sur le travail, il n'y a pas de prise de parti notamment on va dire politique, enfin en tout cas pas pour un parti ou une orgasme très, dit très clairement, mais en tout cas c'est vraiment un travail de base pour tous les salariés et ceux qui ne travaillent pas, pour pouvoir avoir des arguments contre ces personnes là, parce que dans, forcément qu'au travail il y a au moins une personne
ou plus
qui est proche du Front National. Et puis pour finir, malheureusement voilà, des menaces de mort et une violence transphobe et homophobe, ça s'est passé du coup dans un carrefour à Saint-Guilhem, à Montpellier. Alors, je vais vous lire le témoignage, là, j'ai encore 3-4 minutes. Voilà, donc c'est l'une des trois personnes qui a été tabassée. Voilà, alors que je sors du magasin, le vigile, apparemment du coup c'est pour un vol de petit fromage de chèvre, hein, du coup, que tout ça s'est passé, hein, un petit fromage de chèvre. Alors que je sors du magasin, le vigile imposant essaye de me bloquer, j'essaye de passer, il m'attrape par le cou et me plaque contre le mur. Sa réaction était tellement démesurée, j'essaie de me débattre, mais il continue de me cogner contre le mur. Un des caissiers regarde la scène en souriant, tandis que les autres continuent leur travail sans broncher. Le vigile me traîne alors par le cou à travers les rayons pour me conduire jusqu'au local isolé dans l'arrière-boutique. Sans que personne ne réagisse, je hurle et je supplie de me lâcher car je ne peux plus respirer. Il continue de me serrer le cou avec force. Arrivé dans la pièce, il me cogne la tête et le corps contre la porte pour l'ouvrir. Dans cette pièce, un deuxième vigile nous attend. Celui qui m'étrangle depuis le début me projette contre le mur et me frappe à coups de poing à plusieurs reprises. Il me hurle dessus avec ces propos-là. Je ne sais même pas ce que t'es. Je t'ai pas enculé parce que j'ai cru que t'étais une meuf. Et là, je viens d'apprendre que t'es un mec. Je vais te défoncer. Je vais t'enculer. Viens à 22h15 devant le carrefour. Et je te bute. Je ne sais même pas ce que tu es. Tu me dégoûtes. Donc voilà les propos du vigile. Depuis le début, ma copine essaie de me défendre et de calmer la situation, mais se fait éjecter. L'autre vigile nous dit qu'il a appelé les flics et continue à nous insulter et humilier pendant 20 minutes avec des propos tels que vous êtes des lesbiennes, vous faites vos malines, vous êtes que des merdes, vous comprenez rien à la vie. Je sais toujours pas ce que t'es, mais je vais te buter. Viens à 22h à la sortie. Quelqu'un de très frustré apparemment. Le caissier arrive tout fier et me dit « si je m'étais pas retenu, je t'aurais claqué la gueule ». Le vigile me lance « t'as de la chance qu'il y ait témoin, sinon je t'aurais emmené au sous-sol et il y a des gens qui n'en sont pas remontés ». 4 flics du coup appelés à la rescousse arrivent à ce moment-là très énervés. Le vigile leur dit qu'il veut porter plainte. Les flics acquiescent, hein, ils disent qu'ils vont prendre sa plainte. La personne est donc en pleurs, elle a des marques sur le cou et le visage. Elle dit aussi aux flics qu'elle aussi veut porter plainte. Et là, ils me répondent « non mais tu rêves toi, t'as volé, tu l'as bien cherché. Vous retournez vraiment les choses, vous êtes à l'ouest, tu crois que tu vas voler et qu'on va t'embrasser le cul après. Les gens, ils veulent porter plainte alors que c'est des voleurs ». Les flics nous insultent à leur tour, hein, les mêmes insultes, enculés, débiles, grosses merdes, c'est à cause de gens comme vous que le monde est dans la merde. Les gens comme vous, ils comprennent vraiment rien, on doit toujours tout leur répéter. Je vois que ça sert à rien de parler avec eux, du coup je me tais et ils continuent les insultes. Enfin, mais t'as pas compris que tu devrais juste fermer ta gueule. Le directeur du magasin rentre en hurlant, vous êtes chez moi ici, c'est moi qui fais la loi et vous avez intérêt à fermer vos gueules parce qu'il y a un sous-sol, un -1 et un -2. Il y en a d'autres qui sont déjà passés par là et on les a découpés dans le frigo. Je m'adresse aux flics en leur disant que ce sont des menaces et là ils me répondent « non mais là c'est la sphère privée, nous on n'intervient pas là, non mais là on n'est pas gagnant avec des malades mentaux comme ça, on n'a pas de chance, mais c'est incroyable que les gens comme ça sont débiles ». Suite à ça, le vigile lance la vidéosurveillance qui a filmé la scène. Malgré l'évidence des violences à mon encontre, les flics soutiennent la version des vigiles. Mon ami les insulte de connard et se prend une baffe en réponse par un des flics. Pour finir, les flics prennent nos identités et nous demandent de ne plus jamais revenir. Le vigile rajoute encore une fois, si ce n'est pas suffisant, hein, qu'il nous tuera sinon. Donc voilà, donc il y a un appel du coup à diffusion de ce témoignage qu'on vient de faire ce soir. Et au boycott de ce fameux Carrefour City de la rue Saint-Guilhem. Moi j'allais dire boycott, voire même un peu plus. Donc voilà, on va terminer là-dessus. On va peut-être juste rappeler du coup que malgré le froid et que les travaux, comme la semaine dernière, que les travaux ne soient toujours pas avancé à la plume noire, on continue à tenir les permanences le samedi 15-19 et le mercredi 17-19.
Ouais, et on continue à tenir les cours de langue, les cours aussi, de langue aussi. Lundi soir de 18h à 20h.
Donc c'est toujours à la plume noire au 8 rue Diderot.
Et puis les commissions aussi.
Et puis voilà, si vous voulez vous rapprocher un petit peu du groupe, vous savez que, enfin si vous ne savez pas, on va vous le répéter, que du coup on fonctionne sur des fronts de lutte bien précis, notamment le front antiraciste, le front syndical et le front antipatriarcal, et que du coup à ces commissions, enfin à ces fronts de lutte correspondent des commissions auxquelles peuvent participer du coup des sympathisants et sympathisantes. Donc voilà, il n'est pas obligé d'être adhérente et adhérent de la CEJA pour pouvoir participer à la lutte. Donc on vous invite à nous contacter si cela vous intéresse, et puis on en parlera, voilà, pourquoi pas une perme de la radio, ça pourrait être sympathique tout ça. Ouais. Donc voilà, écoutez, on va se laisser là, on va lancer le générique et puis
on va vous dire bonsoir à toutes et à tous.
Et la semaine prochaine.
Allez, bonsoir.
Salut, ciao.